Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Au programme, et finalement, le roi ne viendra pas. Pas sérieux d'accueillir Charles et Camilla dans ce climat insurrectionnel, dit en substance Emmanuel Macron. Ce matin, la presse britannique ne décolère pas contre la France d'avoir baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Premier sujet de débat. La violence, justement, elle est encore attendue aujourd'hui, notamment à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, au lieu de contestation contre les bassines géantes d'irrigation agricole. Dans la rue, les feux de poubelle se poursuivent et les interpellations se font de plus en plus musclées. Dans ce contexte, quelle solution pour Emmanuel Macron ? Le président n'a jamais été aussi isolé. Sur quelle majorité, sur quels appuis peut-il encore compter ? 3/4 des Français toujours pas convaincus de son action. 8 Français sur 10 veulent une refonte des institutions. Est-ce le début de la fin ? Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. C'est au Conseil européen de Bruxelles qu'Emmanuel Macron a annoncé que finalement, le roi Charles et la reine consort Camilla ne viendraient pas demain en cause la nouvelle journée d'action nationale de mardi prochain. Pas sérieux de les faire venir dans ce contexte, dit le chef de l'État, alors que pourtant, le matin même, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assurait que tout était bordé. Comment est-ce qu'on peut comprendre un tel renoncement ?
Bah écoutez, ça veut dire que au dernier moment, sans doute, le président de la République a décidé de supprimer quelque chose. Alors, l'a-t-il fait à la demande du roi d'Angleterre ? On pourrait imaginer.
Il y a eu un coup de fil.
Non, non. Si ça avait été... Non, mais si les Anglais l'avaient demandé, on le saurait aujourd'hui. Apparemment, il n'y a pas eu de demande officielle du palais et de Sa Majesté, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. Macron dit Sa Majesté comme si c'était un citoyen britannique.
Un sujet
britannique. Donc, il n'y a pas eu de demande des Anglais. Alors, à partir de là, la question que vous posez. Moi, j'y ai répondu jeudi, et je ne vais pas du jeudi à aujourd'hui dire le contraire. Je pensais jeudi, et je pense aujourd'hui, que... dans une visite d'État, dans un symbole de l'État français, de la façon dont notre République fonctionne, ce n'était pas une bonne chose de renoncer à cette visite d'État. Il y avait des tas d'implications internationales, première visite, etc. Mais je disais simplement à un correctif, il était possible d'envisager de transférer le grand dîner de Versailles, qui aurait pu apparaître comme une provocation et rappeler l'histoire de France et octobre 89, de le ramener simplement, comme souvent dans les visites d'État, un grand dîner à l'Élysée. Voilà. Mais c'est tout. Je ne vois pas pourquoi. Parce que là, on donne l'impression d'un immense aveu de faiblesse. Est-ce que ça veut dire que le président de la République n'ose plus sortir ? On ne l'a pas vu non plus au Stade de France. Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le président de notre République, élu il y a un an par une confortable majorité, ne peut plus mettre les pieds dehors de son palais ?
Non mais là, je pense Emmanuel Macron, c'était comme pour le vote. Hein, jusqu'à une heure avant le vote où on a décidé de le 49-3, il était pour que le roi vienne. Et puis les choses se sont accumulées. C'est vrai qu'il avait autour de lui des conseillers qui lui disaient « attention pour le symbole, pas de dîner ». À Versailles, parce que 200 personnes en robe blanche et en smoking, c'est pas le moment pour. C'est pas. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un jour de grève. Le mardi,
Cela dit, il ne va pas se mettre en jean pour le roi Charles.
C'était pas ça non plus. Et on aurait pu faire le dîner, comme le dit Gérard, à l'Élysée. Mais il y avait quand même le jour de grève de mardi. Le roi devait aller en train à Bordeaux. Est-ce qu'on n'allait pas bloquer les voies ? À Bordeaux, il était reçu par le maire, mais le Porsche a brûlé.
On aurait pu anticiper quoi ?
Moi, je pense qu'il fallait...
On sait bien que
le climat insurrectionnel est depuis des semaines.
Non, écoutez, moi, je pense qu'il a bien fait d'annuler, c'est tragique pour le pays.
Même si c'est tardif, d'accord.
Alors, moi d'abord, je me sens très humiliée, hein, ça me fait beaucoup de... j'ai trouvé que c'était très bien justement que le roi ait choisi de venir ici au moment où on a des problèmes avec l'Allemagne. Bon, ben, ça c'est autre chose, donc je trouvais que c'était très bien. L'idée qu'il ait en premier en Allemagne...
ça l'agace profondément.
Ça m'agace aussi, si j'ose dire, d'ailleurs Buckingham a fait savoir à plusieurs des chroniqueurs avec lesquels j'ai dialogué et je reproduirai ce dialogue
simplement, que j'ai eu ce matin.
Il fallait 5000 policiers pour assurer la route de Versailles. Il en faut 3500 pour les bassines sur lesquelles on reviendra. Il faut quand même des policiers à Paris. Tout était possible, c'est tout. Et je crois que Il a dit que c'est une décision de bon sens et d'amitié. C'est un peu vrai, moyennant quoi. Je trouve que c'est très dommageable pour la France.
Ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Parce que si...
Non, ça veut dire qu'on craint un incident.
La philosophie, depuis plusieurs semaines... Charles, je te laisse la parole dans une seconde. Mais depuis plusieurs semaines, on nous dit en gros quoi ? Tout ça, ces manifestations, ça passera, ça... Tout va, finalement, tout va très bien, Madame la Marquise. Et tout d'un coup...
Non, personne ne dit tout va très bien, Madame la Marquise.
Les ministres,
ne dit ça.
On va enjamber
mais
cet obstacle.
Mais ils font ce qu'ils peuvent, regarde leur tête. Écoute,
le processus législatif, une fois passé, tout ça, ça va se calmer, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque part une fébrilité.
Mais ça tombe mal.
Et une décision qui donne l'impression d'un signal de... Je dirais pas de panique, le mot serait trop fort, mais un signal d'inquiétude extraordinaire.
Eh ben oui, puis tu as vu la, jeudi soir, la violence partout dans tout le pays. Voilà, des actes de violence avec des jeunes, la haine contre Macron qui s'exprimait, vous voyez tout ça. Et je crois que là, ça a donné une panique, parce que ce qui s'est passé en Bretagne, tu me diras, c'est pas à Paris sur le parcours du roi. On s'est dit, il peut se passer n'importe quoi. Que pour le train, on bloque les voies. Qu'à Bordeaux, s'il vient en avion, on bloque l'aéroport, il puisse pas. Et avec des gens comme ça, et des black blocs, et toute cette violence, il pouvait arriver n'importe quoi.
Charles Villeneuve.
Et je veux dire, c'est une défaite. C'est une défaite pour la France. C'est vraiment tragique. Moi, je trouvais que c'était formidable que le roi vienne. C'est un type, on avait envie de l'entendre au Sénat.
Les caméras du monde entier étaient braquées
sur
la France.
Et puis le Sénat, où il parlait, c'était pas l'Assemblée nationale. Il parlait pas dans une ZAD. Il parlait dans un hémicycle avec des gens normaux. Bon, et donc, c'est raté. C'est vraiment très malheureux pour le pays.
Charles est très poli, il a
attendu. On a compris que vous étiez pour le report. On a compris. D'accord,
mais on a compris que vous étiez contre.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je partage l'opinion de mes camarades journalistes que j'ai consultés ce matin, la plupart étant des commentateurs d'ailleurs de la Première Ligue. Et pour les Anglais, ce matin, la décision de l'Élysée de reporter le déplacement du roi est révélateur de ce qu'ils appellent le caractère français. Vous êtes des softies, c'est-à-dire vous êtes des mous. Caractéristique des Français, vous reculez au lieu de prendre vos responsabilités, adapter le système par rapport évidemment aux itinéraires, différents itinéraires qui sont prévus.
Il fallait l'enfermer à l'Élysée.
Paris, Bordeaux, etc. Et là maintenant, vous cédez à la menace. Et la monarchie britannique ne renonce jamais, quitte à faire des ajustements. Ce sont ces ajustements, d'ailleurs, que évoque aussi bien Catherine que Michel et que Gérard, moi je suis sur la même ligne que Gérard, je pense qu'il ne fallait pas céder à cette menace, qu'il fallait s'adapter et il fallait, le roi avait choisi de venir à Paris parce que il est chafouin sur l'Allemagne, il parle très bien l'allemand comme le français, où il est venu d'ailleurs à Paris et en France 34 fois de suite, Buckingham le rappelle ce matin en disant que, en nous faisant comprendre que le roi tenait à venir d'abord à Paris et pas aller d'abord en Allemagne.
Et avant même un pays du Commonwealth.
Donc voilà. Mmh. Alors la déception est d'autant plus grande qu'il aurait préféré justement commencer par la France et pas par l'Allemagne.
Pause et on revient dans un instant et on parle des violences. A tout de suite.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, au lendemain de l'interview télévisée du président, au moins entre 1 100 000 et 3,5 millions de personnes ont défilé en France. 903 feux allumés dans les rues parisiennes, 1500 black blocs qui ont été recensés, 148 incidents dans des lycées, entre 119 et 800 000 Paris, dans la seule ville de Paris selon les sources. Est-ce que c'est l'effet direct de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, Gérard Carreau?
Je pense effectivement qu'on a vécu cette semaine un changement de nature. Cette crise dure depuis plusieurs semaines, on a vécu un changement de nature. Et les deux déclencheurs de ce changement sont le 49-3 à l'Assemblée et les propos qui se devaient apaisants, mais qui ne le furent pas, ils furent au contraire une sorte d'excitant pour une forme de montée en puissance de la rébellion. Et on est passé d'une révolte contre le projet de loi sur les retraites à une révolte intuitu personnée contre le chef de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas réussi à apaiser et qu'il a provoqué quelque part, on a effectivement tourné le canon vers Macron. Et aujourd'hui, et ça explique qu'on a dit précédemment sur le report du voyage du roi, etc. Hein, il y a un aveu, on dit ça y est, ce pouvoir, maintenant ce pouvoir, il est plus en état de répondre. Ouais. Voilà.
Michel
Godard. Ça fait assez longtemps qu'on s'aperçoit qu'effectivement, tout converge contre la personnalité de Macron. Alors on a vu quelques affiches ou quelques brûlages de tête, si j'ose dire, d'Elisabeth Borne dans les manifestations. Mais enfin, effectivement, c'est inquiétant de voir à quel point le président de la République unique suscite autant d'impopularité. En regardant son discours, franchement, le discours du mercredi.
Catherine... On s'était appelé, oui. Mmh. Oui, on l'avait pas trouvé mal. Et puis, en le relisant, il y a quand même des allumettes par-ci, par-là. En tous les cas, ça a été reçu comme ça.
Oui,
et
enfin,
je veux dire,
reçu.
Il croyait calmer les choses, et puis quoi, ça a été les 40e rugissant. Alors, et le jeudi soir, dans les manifs, dans toute la France, qu'est-ce qu'on a vu? C'était les jeunes, ils avaient passé le bac, ils venaient pour brûler des poubelles, avec des mots d'ordre, non à la retraite. Bon, voilà, mais je vous signale qu'en 2010, les jeunes, ils étaient descendus dans la rue, non à la retraite à 60 ans, sans voir que c'est eux qui paieraient pour les vieux. Mais bon, peu importe.
Ça, ils ont
donc
pas
c'était
vu,
une sorte de farce. Mais il y a eu les Black Blocs et qui ont fait des choses. Et les Black Blocs, dont certains venaient d'Allemagne, de Belgique et tout ça. Mais c'est ce climat de violence entretenu par le LFI, entretenu par Mélenchon, qui fait que comme ça, je veux dire, la France, c'est un tapis de braise. Alors si on s'ouvre dessus, voilà.
Charles Villeneuve.
Non, mais ce que viennent d'écrire mes camarades, c'est manifestement ce que je résume moi en disant la donne a complètement changé pour le président de la République. Elle a profondément changé et ce sera très difficile pour lui de lutter contre ça parce que c'est constitué de tous les territoires, ça remonte. Et d'ailleurs, c'est les élections législatives qui avaient donné le coup d'envoi là-dessus. De tous les territoires remonte un front du refus, un véritable front du refus avec comme point de fixation le président de la République. C'est Macron lui-même aujourd'hui qui est l'enjeu en réalité. Ouais. Alors ce que décrivait Catherine en disant la rue s'est enflammée, etc. Il faut quand même pas oublier que 1500 Black Blocs radicaux se sont infiltrés dans tous les systèmes et ont adopté, et on l'a vu dans Paris notamment, une tactique qui est très difficile pour les services de sécurité, c'est qu'ils se répartissent à travers toutes les rues, évidemment, qui offrent un matériel de base formidable pour ces agitateurs, c'est-à-dire les ordures qu'on étale, auxquelles on met le feu, et qui permettent de diviser le service de sécurité, qui est obligé de s'émietter et de courir à droite et à gauche, etc.
Au lieu d'avancer en
colonne. Mais bien sûr.
Oui.
Et donc, et ce sentiment anti-macroniste est devenu majoritaire dans le pays. C'est ça le phénomène politique.
Il est majoritaire
important.
Et c'est entretenu. Là. Majoritaire oui. Et entretenu d'une manière permanente.
Bien sûr,
par les insoumis, bien sûr.
Il y a un contorsionniste, de toute façon, qui est déjà passé de tous les côtés du système de l'hémisphère politique. C'est Mélenchon qui l'anime. Mais en même temps, comme l'a souligné Catherine, c'est que le bac est passé maintenant et que de toutes les villes universitaires notamment s'agitent
pour vous, Mélenchon, c'est le marionnettiste, c'est lui qui
Non, je pose la question. Moi, je suis pas un complotiste.
Je pose la question.
Non, pas du tout. Je dis pas qu'il est le chef du système. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que alors que le 49-3 n'a pas été fait pour faire passer une réforme super antipopulaire, et on l'a fait passer au forceps. C'est le déclencheur. C'est ça le véritable déclencheur.
Donc moi je pense que ça pose vraiment des problèmes dans l'enregistrement institutionnel quand même. Le 49-3 a
mais
été
c'est
utilisé
pas une crise institutionnelle.
100 fois.
Pour l'instant, c'est une crise politique.
Je vais finir. Je veux dire le 49-3... en soi, peut être utilisé, mais effectivement, ça veut dire que les gens ne comprennent plus qu'on puisse faire un truc comme ça. Ils ne comprennent plus qu'au dernier moment, il y ait une motion qui empêche la vraie discussion d'aller jusqu'au bout, etc. Mais je vous rappelle qu'au Parlement, on a plus parlé de cette retraite qu'il y a eu plus d'heures passées à parler des retraites, oui, malgré que en 2010. Bon, ça c'était
avec surtout des obstructions. Donc, il n'y avait pas un débat de fond.
Hein. Il est évident. Moi, je trouve qu'il y a quand même deux lignes qui se croisent. Il y a la ligne effectivement anti-Macron. On a l'impression que maintenant, quoi qu'ils disent, bon, ça peut peut-être s'arranger, mais rien. Et puis il y a la ligne, cette sorte de refus de toute autorité institutionnelle. Moi, je trouve généralement les problèmes institutionnels, on se dit, ah, on se les pose quand c'est fini, Gérard, quand on n'a rien à dire, oui, mais alors, les problèmes institutionnels, ils se posent Gérard, vraiment, moi, je trouve.
Moi, je pense qu'il faut toujours reprendre les choses au point de départ, de là, ce qui a changé. On nous avait un peu dit, le président de la République va parler, quelque part, quand on dit le président va parler, oui, et on s'attend à un discours plutôt d'apaisement et de recherche d'une voie de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on a entendu dans cette interview,
à 13h,
puisque
mercredi,
c'était qualifié d'interview, à la télévision mercredi. Dans cette interview, donc je vais aller dire pseudo-interview, non, dans cette interview, il a dit quoi? Mais il a dit des choses extraordinaires. Il a dit en gros, ce qui se passe à Paris, c'est comme le Capitole, c'est-à-dire qu'on voyait les hordes de Trumpistes qui sont allés casser. Attendez, personne jusqu'à présent, et Dieu à Dieu ne plaise, n'est allé casser l'Assemblée nationale ou le Sénat ou l'Élysée.
On a cassé
l'Arc de Triomphe, je te rappelle. Ah ben il y a des comparaisons qui sont des appels, quelque part, à aggraver
factieux,
les situations.
Les factieux.
Pourquoi pas les factions, les factieux et les fascistes. Enfin, on a entendu des choses, plus des mensonges. Mensonges et honté présidentielle lorsqu'il dit les syndicats n'ont rien proposé, ils n'ont pas proposé d'alternative. Ce qui est faux, est-ce que d'ailleurs Laurent Berger, qui est plutôt un calme, lui a répondu vertement là-dessus. Enfin, donc ce discours non seulement n'a pas apaisé, il a jeté les ferments de ce qui s'est passé à la manifestation. Ouais. C'est-à-dire grossi, et avec l'éruption, Michel, avec l'éruption, je finis là-dessus,
oui,
avec l'éruption des jeunes, avec l'éruption des jeunes, les manifestations organisées ont pris une nouvelle, effectivement, dimension.
Une pause dans les grandes voies. Je vous signale également que demain, dès 10h, sur Europe 1, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le Grand Rendez-vous, entourée de Cécile Cornudet des Échos, Mathieu Bock-Côté. Sonia reçoit ce dimanche le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui publie « Je n'ai pas dit mon dernier mot » aux éditions Rubin Prêt, le Grand Rendez-vous. Europe 1, CNews, les Échos, tous les dimanches, de 10h à 11h. Le retour des grandes voies dans un instant.
Les grandes voies d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Kerrerou et Charles Villeneuve. Quelques chiffres. 76% des Français ne s'estiment toujours pas convaincus après ce 13h d'Emmanuel Macron mercredi dernier. 67% des Français souhaitent que le mouvement se poursuive contre ce projet. Et malgré une inquiétude face à la violence pour 72% d'entre eux. Enfin, un petit dernier. Opinionway, 8 Français sur 10 souhaitent pouvoir contribuer au changement des règles du jeu politique, autrement dit contribuer à une refonte des institutions. On parle souvent de 2010, Charles Villeneuve.
Oui, non, mais ce qui change entre 2010, au moment où Nicolas Sarkozy propose cette réforme pour les retraites, de faire passer de 60 ans à 62 ans le départ à la retraite. Mmh. C'est qu'à l'époque, il y avait 53% de Français qui jugeaient cette réforme acceptable. Et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 36% qui considèrent que c'est acceptable. C'est-à-dire qu'il y a une inversion complètement de la pyramide d'une majorité et qu'on n'en a pas tenu compte. Dès le départ, on avait ce chiffre. On savait qu'il allait avoir une hostilité considérable de porter le départ à la retraite à 64 ans. Et ça, c'est la première des erreurs. L'erreur de base, en plus du 49.3, on veut faire passer au forceps une réforme qui est impopulaire.
Oui, mais si Nicolas Sarkozy, il avait quand même un sens politique, parce que Raymond Soubi, son conseiller, lui disait « allons jusqu'à 63 ans ». C'est lui qui a dit « non, non, 62 ans, après ça serait difficile ». Alors c'est vrai qu'au départ, les Français disaient « il va bien falloir travailler plus ». Mais les Français sont les Français, vous voyez, ils aiment l'ordre, ils sont pour, mais dès qu'il y a des manifs et de la violence, 70% étaient pour les manifs. C'est toujours comme ça, les Français. Mais il n'empêche la différence. Les deux différences qu'il y avait à l'époque. C'est d'abord que lui pouvait se représenter, alors que que là, pour Macron, il ne peut pas se représenter. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait une majorité. Et à l'Assemblée, il y a quand même eu au vote 336 voix pour, 233 voix contre, ce qui n'empêchait pas Jean-Marc Ayrault de parler de forfaiture, de république abîmée. Ça a été, voilà. Bon, ça a été voté au Sénat. Après le vote du Sénat, les raffineries ont été bloquées pendant 17 jours, il ne faut pas l'oublier. Et Mme Aubry demandait à Sarkozy de ne pas promulguer la loi et qu'il faudrait recommencer la discussion. Donc vous voyez, c'était quand même pas facile. Mais la différence, c'est qu'il avait la majorité.
Voilà. Ce qui fait une crise politique, en plus, une crise politique particulière. Alors certains disent crise de régime, mais bon, disons une crise politique très importante actuellement. C'est effectivement, et Catherine l'a esquissé, c'est que les pouvoirs de la Ve République ont toujours eu une majorité dans les assemblées.
Et voilà. C'est la base.
Non, mais attendez, il faut le redire, parce que la Ve République, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne sur un mode binaire.
Oui, mais il faut être clair, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la majorité, ça ne fonctionne pas.
Alors, voilà. On est en train de découvrir que quand il n'y a pas de majorité, ce qui est le cas depuis un an, à ce moment-là, la République ne fonctionne plus. Et il y a un problème, où est la légitimité effectivement populaire. Est-elle dans une assemblée qui est où la majorité n'est pas une majorité mais une grosse minorité, est-elle dans la rue?
La majorité, elle a été élue par le peuple.
Les jeunes ne reconnaissent pas. On était dans l'ancien monde avec ce 49-3. On se souvient de Rocard, on se souvient d'autres. Mais là, nous sommes arrivés, les jeunes générations, pas seulement les jeunes de 18 ans, les nouvelles générations considèrent que le 49-3 n'est pas un acte constitutionnel, c'est un acte de brutalité à l'égard du peuple. Et si vous ne voulez pas intégrer ça dans vos raisonnements...
Mais c'est Mélenchon qui le leur dit.
Il n'y a pas que Mélenchon qui le pense.
Non, mais enfin,
et moi, je ne pense pas comme Mélenchon, oui, ça peut te rassurer.
Tu n'as pas toujours pensé comme ça.
Mais ce que je veux dire,
mais on a changé. On a changé de monde. Je suis absolument sûre que de ce point de vue-là, d'ailleurs, moi, j'étais contre l'engagement du 49-3, en me disant qu'après tout, il n'y aurait pas eu de 49-3, ça aurait peut-être été une porte de sortie. Mais je pense que quand on dit qu'ils ne font pas ça par plaisir... Donc il y a quand même, effectivement, ça va plus loin en plus notre crise. Parce que notre crise, elle n'est pas seulement que Macron n'a pas de majorité. Le problème est qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et qu'on ne voit personne se dessiner à l'horizon. Et donc, pour moi, ça accentue tout à fait l'impression d'inquiétude et d'angoisse.
Personne sur laquelle il y aurait un consensus.
Ni à droite ni à gauche. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a fini d'être dans la bipartisation et qu'on est effectivement dans une forme de triple polarisation avec deux extrêmes. C'est très difficile de jouer. Et s'il n'y a pas d'alliance, à un moment donné, entre le corps intermédiaire, alors il est foutu.
Oui. Charles Villeneuve.
Non mais rappelle-toi, Michel, Catherine, Gérard, rappelez-vous que nous étions stupéfaits qu'au moment des élections législatives qui suivaient les présidentielles, le président a disparu. Il n'a pas fait le boulot de base
fait le service minimum
des élections législatives.
Il n'a même pas fait campagne pour la présidentielle.
Et le résultat, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Mais non. Il a pris le vote utile, on ne voulait pas de Le Pen, pour un vote d'adhésion. Et après, il n'a pas changé. Il avait dit, on va faire une nouvelle méthode. Le soir de son élection, il a dit, on va faire une nouvelle méthode. Il n'y a pas eu de nouvelle méthode. Alors aujourd'hui, on arrive qu'il y a une crise politique, une crise sociale, une crise morale, parce que les gens disent, c'est la décadence, il n'y a personne pour remonter. Et aujourd'hui, il y a un seul personnage qui est un peu... qui peut avoir un moment de gloire et qui est un peu le roi au-dessus du président, c'est Fabius, au Conseil constitutionnel.
Et on attend sa décision.
On demande ce qu'il va faire. Ouais. Parce que soit il dit tout est d'équerre, il n'y a plus rien à dire. Et dans ce cas-là, Laurent Berger a dit dans ce cas-là, on se calme et ça se calmera. Soit il dit, il y a des petits trucs à changer et il donne son avis favorable pour le réforme d'initiative, comment on appelle, le référendum populaire. Bon, le référendum populaire, il faut...
Les citoyennes, le RIC.
Mais il faut un an pour le... Alors, la question juridique, est-ce que pendant cette année-là, la loi s'applique ou pas?
Et est-ce que les violences continuent pendant un an?
Est-ce que les violences continuent, voyez? Donc, il peut suggérer aussi au président, article 10, non, il faut recommencer le débat, il faut qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée. Donc, il a entre ses mains l'avenir de Macron.
Oui, non, mais il l'a d'autant plus qu'il a tous les moyens de supprimer cette réforme, en réalité. Puisque cette réforme a été accolée au budget de la sécurité sociale avec des débats limités. Et ces débats limités sont inconstitutionnels. Il a les raisons d'enterrer cette réforme.
On verra ce qu'il dit quand même. Attendons-le.
Simplement, pour ajouter à ce qu'a dit Catherine sur le référendum d'initiative citoyenne, pour que ça tienne et que ce soit examiné et que ça ait lieu, ce référendum, il faut qu'au départ, on rassemble 10% du corps électoral.
Presque 5 millions.
Oui, mais là, c'est-à-dire
4 700 000 électeurs qui signent justement ce référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même, peut-être on peut y arriver, mais c'est quand même pas facile.
10h37, une pause et on revient avec les grandes voix. Pardon de vous avoir coupé, ma chère Catherine, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. La suite des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et comme vous le disiez précédemment, nous avons donc ce texte qui est au Conseil constitutionnel. On devrait avoir une décision d'ici 3 semaines, 1 mois, selon ce que va dire Laurent Fabius. Mais quand même, dès le départ, nous avons, et vous l'avez fait remarquer, un texte qui passe par le PLFSS rectificatif, où on engage le 47.1 pour réduire la durée des débats, où on engage au Sénat le 44.3 qui est le vote bloqué, où on engage le 49.3 au retour à l'Assemblée nationale.
On limite tous les débats.
Voilà. Oui, mais il y avait 6000 amendements, 7000 amendements, dont chacun à la virgule près.
On l'a vu
qui
déjà
empêchait...
ça.
En 2010, le texte arrive à l'Assemblée par un PLFSS rectificatif.
Non, puisqu'il y avait la majorité.
Je voudrais rebondir sur le Conseil constitutionnel. Donc Catherine a parlé en disant en quelque sorte que le président du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Laurent Fabius, l'ancien Premier ministre socialiste, avait quelque part un rôle majeur.
Il peut dénouer ou précipiter la crise. Voilà.
Il n'est pas tout seul, il est président d'un organisme.
Mais c'est en même temps l'issue du Conseil constitutionnel qui se joue, parce que ce Conseil constitutionnel, qui au départ, de Gaulle, le traitait un peu à la légère dans la Constitution, peu à peu, il s'est arrogé des droits supplémentaires au fil des années. Aujourd'hui, il a en tête, ils ont tous en tête, les membres du Conseil, depuis déjà plusieurs décennies, de devenir une Cour suprême comme la Cour suprême américaine. C'est-à-dire de pas seulement juger sur la forme, sur la constitutionnalité de ce qui est proposé, mais sur le fond, c'est-à-dire sur la politique. Et là, la décision de Laurent Fabius et de ses collègues, c'est une décision qui sera, si elle est simplement une décision constitutionnelle, peut-être il peut y avoir un ou deux articles de la loi qui sont jugés non conformes. Mais ça ne rend pas, si vous voulez, à ceux qui sont dans la rue, l'idée qu'il faut arrêter le 64 ans. Donc ça ne donnera pas une solution. Ou alors, effectivement, on retoque le Conseil, a la possibilité de retoquer et de demander, effectivement, sous une nouvelle forme, qu'on refasse quelque part le projet en disant c'est pas comme ça qu'il en gros comme ça qu'il aurait fallu faire donc et il donne là une possibilité au président de la République de sortir de cette crise, parce que sans cette possibilité là ça va devenir très difficile.
Ça va sûrement devenir difficile et d'ailleurs ça l'est déjà. Oui. Tu signalais toi-même que, évidemment, les étudiants qui ont passé leur bac maintenant, ils peuvent se joindre à la manifestation sans savoir du coup du tout ce que c'est que la capitalisation. Donc, moi, je crois que c'est très important. Je crois que cet avis amènera beaucoup de difficultés au Conseil constitutionnel. Parce que quoi qu'il fasse, ça ne serait pas. Et quand même, vous me direz ce que vous voulez. Moi, je trouve quand même que quand on voit dans une même société, en même temps, une manifestation contre la retraite, une manifestation contre les rats à Paris, Hein, moi, je l'ai vu, ça. Pour les rats à Paris.
Oui,
pour. J'ai vu hier, je suis tombée.
Les surmulots.
Là. Bon. Et,
les surmulots. Les sympathiques surmulots.
Et ce qui se passe dans le milieu agricole sur l'eau.
Sur l'eau.
Moi, je vous dis quand même qu'il y a quelque chose dans la France, là, moi, qui me fait peur. Il y a quelque chose dans la France qui me fait peur aujourd'hui. Je vois bien que tout ça retombe sur Macron, d'une certaine façon. On peut le comprendre, il est président de la République, c'est normal, il peut l'assumer. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est cette espèce de bataille de rue. On n'en est quand même pas arrivé en France à une guérilla urbaine. Si ça ne vous choque pas, moi, ça me... Et que ça finisse par dire, ah ben ça bloque tout, moi, je suis très, très, pas perplexe, je suis vraiment très inquiète sur le sort de la Ve République. Sur le sort de la Ve République. Oui, oui, parce qu'au fond, est-ce qu'on ne s'est pas trompé en disant il faut élire un président de la République au suffrage universel ? Peut-être on s'est trompé,
C'était le thème du vendredi thématique d'hier sur Europe 1. Oui. La Ve République est-elle arrivée à bout
mais
de
temps ?
Si la Ve République pouvait tomber, c'est que maintenant, plus personne veut ne faire de la politique. Parce que tous les outils ont été déclenchés pour qu'on ne fasse plus de politique. Le non-cumul des mandats, la haute autorité de la transparence, le PNF, qui dès qu'il y a un candidat, vous l'avez même vu pur du sop, déjà le PNF sortait un truc parce qu'il avait trouvé des choses ridicules. Et même le Conseil constitutionnel, vous voyez, quand vous dites, par exemple sur l'immigration, eh bien quand il y a eu ce berger dans les Alpes-Maritimes qui laissait passer les choses, qui a été condamné, ils ont dit non, il faut quand même pour l'humanité. Mais si c'est l'humanité pour l'immigration, eh bien les Italiens, ils ont compris, hein, ceux qui arrivent en fin d'Italie, ils les envoient par le train à Paris, et après, ils arrivent à Paris. Donc, je vais vous dire, même les juges, comme ça, tout concourt aujourd'hui pour que, vraiment, ce pays vraiment aille très, très mal. Parce qu'il n'y a plus d'autorité, que les gens font de la politique de travers, et que les responsables sont les politiques eux-mêmes. Voilà.
Oui, mais d'autant que le Conseil constitutionnel, au départ, était composé de gens variés, très divers. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'anciens politiques qui
Michel
sont au
Pinault,
Conseil.
Jacques Mézard, et par exemple, d'anciens ministres. François Pillet, Alain Juppé, Jacqueline Gourault, François Sénère, c'est Véronique Malbec.
Donc, ils se rapprochent. Ils ne se rapprochent pas véritablement de quelque chose qui irait vers les aspirations de modifier la République. Il a plutôt tendance à rester dans le contexte, disons, de la société. Était élitaire, si vous voulez, comme on dit parfois aujourd'hui.
Et puis, il faut bien dire que Macron n'est pas bon. Quoi.
Charles Villeneuve.
Ce que je viens d'entendre, c'est que les saboteurs de la Ve République sont les politiques eux-mêmes.
Mais c'est vrai.
Mais oui. Mais par exemple, on parle des présidents de la République. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les présidents de la République ont été attaqués par les juges, que ça a été le cas de Chirac, que ça a été le cas de Sarkozy. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire comme signal.
Oui, avec une presse qui est toujours... qui défend des juges. Les journaux qui comptent. Et Mediapart, bien sûr, passent leur temps à...
Le Monde passe leur temps
à dire que les juges font de la politique et c'est bien leur droit et tout ça, c'est pas vrai.
10h46, dernière partie des Grandes Voix dans un petit instant, à tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des Grandes Voix avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Michel Cotta, Madame Borne dans tout ça, Emmanuel Macron lui a redonné sa confiance pour l'instant.
Pour l'instant, ce qui me paraît prudent, mais surtout en lui fixant deux tâches qui sont particulièrement difficiles. Élargir la majorité aujourd'hui, bonne chance à
autant
elle.
Autant qu'elle le pourra.
Elle le pourra sans doute peu, et en lui fixant comme charge de renouer le contact avec les syndicats. Ça, entre nous, il n'y a que Macron qui peut le faire. Donc désigner ces deux objectifs-là à Madame Borne, c'est... Bon, ceci étant, je vous rappelle qu'avant la nomination de Madame Borne, beaucoup de gens, quand même, s'étaient inquiétés en disant « Attention, c'est une technicienne, elle est formidable, elle sait tout, mais ça n'est pas quelqu'un qui expliquera la réforme. » Et c'est un peu ce qui s'est passé.
Oui, Madame Borne, elle avait un choix, et d'ailleurs, elle a fait son choix, elle est courageuse, elle a fait son choix. Le premier choix, c'était d'aller au vote, de dire, pas de 49-3, on va aller au vote, on verra bien. Il est vraisemblable qu'elle aurait perdu, à quelques voix, à très peu.
Il valait mieux perdre
dans cette... Ça aurait été l'honneur, on aurait dit, elle a respecté, effectivement.
Mais tu as raison, mais elle a... elle qui a voulu aller au 49-3.
C'est là ce que je voulais revenir. Oui. Elle a fait un choix. Et c'est elle. Et du coup, aujourd'hui, même le président de la République prend grand soin de bien... De bien souligner que c'est elle qui a fait, ce choix.
Mais c'est vrai,
il aurait pu dire non.
Et du coup, elle est évidemment en sursis. Moi, je me souviens de cette émission.
Mais Bayrou était pour le 49-3, le maire était pour le 49-3.
Je ne dis pas le contraire, mais je dis simplement, puisqu'on parle de Mme Borne et pas des autres, Mme Borne, elle est aujourd'hui comptable de ce choix qui a quelque part rameuté et déchaîné encore plus l'opinion. Et du coup, Mme Borne, elle est aujourd'hui dans une mission impossible, comme on disait dans l'émission de télé, je ne vois pas comment elle peut s'en sortir. Sa mission est impossible.
Mais oui,
comment voulez-vous,
donc, on aura un nouveau Premier ministre. Dans trois mois. Est-ce qu'il pourra réussir l'ouverture? Peut-être. Sinon, on va vers une dissolution.
Oui. La seule vraie fenêtre de tir pour le gouvernement, c'est d'élargir justement cette majorité. C'est de proposer un contrat de gouvernement aux 40 députés républicains qui voulaient voter la réforme. Maintenant, il faudrait encore que Laurel et Hardy les laissent faire.
C'est qui Laurel et Hardy?
C'est Laurent Wauquiez pour et Hardy, c'est celui qui est un peu plus enrobé, Xavier Bertrand.
Bon, mais pour eux.
Et eux, de toute façon, ont d'autres ambitions. C'est d'être candidat à la présidence de la République en 2027. Parce que là-dessus, vous avez des ambitions personnelles qui se foutent royalement, de toute façon, de l'état de ce pays, en réalité.
Michel Cotin. Donc, on n'aura pas ce contrat de gouvernement.
Contrat de gouvernement, de toute façon, en ce moment.
Absolument.
Qui a envie, dans cette, au moment de ces sondages qui tombent tous les jours, etc., qui a envie de faire un contrat de gouvernement? Il ne peut y avoir un contrat de gouvernement que si... D'abord, cette crise est apaisée. Et après, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens... D'ailleurs, je me demande, les Républicains, ils y auraient tout intérêt. Puisque Macron ne se présentera pas. Qui peut hériter de ces électeurs? Les Républicains.
Ça peut être un tremplin pour 27.
Mais justement, donc, je ne comprends pas leur opposition, qui a commencé avant la crise, de... essayer de faire un contrat de gouvernement. Mais c'est sûrement pas le moment choisi aujourd'hui pour le faire.
Merci les grandes voix. C'est tout pour cette semaine. On va se quitter en musique avant d'accueillir Laurent Mariotte. 1985, Johnny Hallyday, sur une chanson de Michel Berger. Voici Quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee, 1985, Johnny Hallyday sur l'album Rock'n'Roll Attitude, 10h56. On retrouve dans un petit instant Laurent Mariotte. Très bonne journée sur Europe 1.